RMC Motors avec Motorsport TV. Jean Lecroix.
Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver comme tous les dimanches entre 13h et 14h pour parler de sport mécanique. Allez, je vous le concède, pas tout à fait tous les dimanches en ce moment, mais vous le savez, il y a évidemment la Coupe du Monde de foot, c'est sur RMC, j'allais pas dire nulle part ailleurs, mais c'est beaucoup sur RMC, et puis si l'équipe de France continue, et bien on risque d'en parler de plus en plus. Nous, on va vous parler de Formule 1, naturellement, puisque le Grand Prix d'Autriche, c'est aujourd'hui pour la série de 3 Grands Prix après le Grand Prix de France, sur lequel on va revenir dans un instant avec un certain Adrien Tourbé.
Salut Jean-Luc, salut à tous.
Et puis le sémillant, le bondissant, le cabri de Styrie, Lucas Vinois, bien sûr, est avec nous. Salut Lucas.
Salut Jean-Luc, salut Adrien. Je vois, messieurs, que vous êtes en forme.
Bah écoute, il n'y a pas de raison. Moi, tu sais, quand on renifle, voilà, j'allais dire l'odeur de la poudre, et que ce Grand Prix d'Autriche, effectivement, pourrait nous valoir quelques émotions, malgré tout, en tout cas, on y croit. On va revenir avec vous, bien évidemment, sur ce Grand Prix d'Autriche, je le disais. Et on va d'abord commencer par le tour de chauffe.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Alors, le tour de chauffe, mais j'appellerais ça, moi, le tour de décélération du Grand Prix de France de Formule 1, si tu le veux bien, Adrien, puisqu'on va revenir sur les faits marquants de ce Grand Prix. Alors certes, ok, victoire d'Hamilton, Vettel qui se tire un petit peu une balle dans le pied, qui joue contre son camp, mais on l'a dit à chaud, hein, là-bas, pendant ce Grand Prix. Un Grand Prix, finalement, dont le déroulement a été mouvementé, inattendu, parce qu'il y a eu pas mal d'accrochages au milieu du paquet.
Pas mal d'accrochages, et puis on pensait à un circuit du Castellet, du Paul Ricard, un peu difficile pour les dépassements, mais ce ne fut pas le cas.
Oui.
On a eu pas mal de dépassements, notamment dans cette chicane de la ligne droite du Mistral.
Alors les avis divergent, on va en dire un mot d'ailleurs, hein, là-dessus,
oui.
Puisque tu sais que les pilotes ont demandé dans leur majorité qu'on la supprime.
On la supprime pour que le virage de Signe à la fin de cette
redevienne un virage.
Ce que t'avais dit là-bas. Là, il passait seulement à 305 km/h à peu près. mais c'est effectivement pour ces monoplaces, ce n'était même plus un virage. Donc les avis divergent, comme tu dis. On a eu quelque part peut-être un premier tournant dans cette saison avec un Vettel qui fait une erreur qui lui coûte cher, même s'il minimise les dégâts en faisant une bonne course en remontant après en plus une pénalité qui a été aussi elle questionnée, un peu de débat là-dessus. Est-ce que la pénalité pour Sébastien Vettel était assez grande?
Et il en prend une autre, là on va y venir dans un instant.
Il en prend une autre, en tout cas ça commence c'est un peu comme l'année dernière, hein. Vettel qui fait une ou deux petites erreurs et un Hamilton qui reprend la tête du championnat et qui reprend 15 points d'un coup, c'est beaucoup.
Effectivement, Lucas, on te retrouve, je le disais, dans ces montagnes. Alors déjà, une petite question. Toi, tu es notre mascotte dans le bon sens du terme, parce que tu vois, tu nous rejoins dans l'équipe de la Dream Team F1 et on retrouve le Grand Prix de France. Alors, ta première impression à toi sur ce Grand Prix national qui s'est déroulé là-bas. Bon, on va pas reparler des histoires de circulation, ça va être résolu l'an prochain, c'était une première. Mais on va parler globalement de ce que tu as ressenti, cet engouement. Bon, encore une fois, dommage aussi pour les Français, mais je crois que tout ça sont des anecdotes. Est-ce que ça t'a marqué? Est-ce que tu as vibré particulièrement?
On avait pas mal d'a priori de toute façon sur ce Grand Prix, on avait peur qu'il n'y ait pas du tout de dépassement, et presque heureusement pour nous, il y a eu cette petite boulette de Vettel qui a emmené Bottas sur un tête à queue, donc les deux ont dû remonter, donc forcément on a eu du spectacle. Après, est-ce que s'il n'y avait pas eu cet incident, on ne se serait pas ennuyé, ça je n'en sais rien. On peut pas refaire les courses, mais peut-être que pour l'année prochaine, il faudra penser à supprimer cette chicane pour qu'à la fin ça reste un virage au niveau de la courbe de ça reste un virage et qu'on ait plus de spectacles peut-être sans forcément qu'il y ait d'éléments extérieurs qui viennent les apporter.
Bien évidemment. Allez, on en arrive à ce Grand Prix d'Autriche. Vous le savez, c'est la 9e épreuve de la saison 2018 de Formule 1 que vous vivez avec nous sur RMC, la radio de la Formule 1. 71 tours à parcourir d'un tracé long de 4 km 318. Alors, je vais te mettre à nouveau à la contribution directement, puis Adrien nous racontera quelques anecdotes, lui qui a piloté sur ce tracé. Lucas, comment as-tu trouvé ce décor magnifique, hein, on se retrouve pas dans Sissi, mais c'est vraiment sympa ce circuit à la campagne, je dirais.
Ah bah on est en plein milieu des montagnes. Alors on a un circuit qui est très vallonné, ça il faut le dire. Il y a 65 mètres de dénivelé entre le point le plus bas et le point le plus haut du circuit. Donc on a un premier virage qui n'est pas facile à prendre avec une grande montée. Alors on n'est pas c'est pas aussi impressionnant qu'à Austin, hein, parce qu'à Austin on sait que c'est assez incroyable, ou même le Médillon de Spa, mais ça monte quand même beaucoup, et ça monte notamment beaucoup aussi au niveau du virage 3 où il y aura des opportunités de dépassement. On le rappelle ici, il y aura trois zones DRS pour essayer de favoriser le spectacle. Alors certains pilotes s'en sont plaints, comme Sébastien Vettel qui disait qu'il faut pas que ça devienne Mario Kart, qu'on se passe, qu'on se repasse, qu'on se redépasse,
mais si.
Grâce au DRS. mais voilà, ça apporte du spectacle, et en tout cas au niveau de la Formule 1, on essaye de mettre des choses à contribution et de trouver des solutions en tout cas pour qu'on ait plus de dépassements que par le passé.
Bien sûr, Lucas. Et Messi, je ne parlais pas de football, hein. L'enchaînement est tout prêt. Je te questionnerai après sur les paris et ce qu'on dit dans le paddock si on a le temps d'y penser. Adrien, tu as eu la chance, le plaisir, le privilège de piloter sur ce tracé donc autrichien de Spielberg. Raconte-nous, et en plus tu as été extrêmement extrêmement brillant sur ce tracé. Raconte-nous un petit peu les impressions au volant et quels sont les points clés.
Alors c'est un circuit tout d'abord très rapide avec peu de virages, donc ça en fait un circuit compliqué pour le pilote où il faut être à 100% de partout. Le petit détail fait la différence,
et le kilomètre heure, la moindre erreur, tu la payes.
Le kilomètre heure en plus ou en moins fait vraiment la différence. Il faut arriver aussi à mettre les trois secteurs les uns avec les autres, en plus de ce dénivelé dont Lucas parlait. Il y a des virages lents avec des freinages très très fort, le deuxième virage notamment, et le troisième virage, des freinages un peu compliqués, et notamment une marche dans le troisième virage à l'intérieur du virage qui en fait un virage compliqué où plusieurs solutions sont possibles.
On peut
soit prendre la corde ou pas. Il y a plusieurs trajectoires possibles, les solutions possibles. Le premier virage est aussi très compliqué parce que il mène sur cette ligne droite qui est en montée et où si on se loupe on perd tout du temps tout au long de la ligne droite,
il faut des
chevaux
et de la motricité,
et en plus de ça il y a on appelle ça du camber positif ou négatif, c'est-à-dire que il y a des virages qui sont plus ou moins
qui t'emmènent vers l'extérieur
vers l'extérieur ou alors vers l'intérieur, donc on peut apporter plus ou moins de vitesse en fonction des virages. C'est très intéressant. Les vibreurs, on peut les emprunter, ils sont plutôt faciles à prendre, mais c'est toujours à la limite. On va chercher la limite loin à l'extérieur des vibreurs. Donc c'est un challenge, notamment le dernier virage. On a vu pas mal d'erreurs et même des gros problèmes au niveau de l'aileron avant. Certains pilotes
en sortant un peu large, qui ont flingué l'aileron.
Sur ces saucisses jaunes. Et Alonso qui d'ailleurs va avoir une...
Les saucisses jaunes, c'est Vurtzel.
qui va avoir une pénalité. Hein, Fernando Alonso qui va devoir, s'élancer de la grille de la voie des stands.
Ouais. Alors, on va écouter tout de suite, parce qu'il y a un homme qui a dominé, évidemment, en qualification et bien dominé l'ensemble de la meute. Il s'appelle Valtteri Bottas. Il a réalisé ce tour, donc, de 4 km 318 en 1 minute 3 secondes. Et oui, vous entendez bien, 3 secondes et 130 millièmes. Il s'appelle Valtteri Bottas. C'est lui qui avait signé la pole l'an dernier, avant la victoire. Il est pilote Mercedes. On va l'écouter au micro de Lucas Vinoy.
J'ai connu un super week-end ici l'année dernière avec la pole position puis la victoire. Là, nous commençons le week-end avec la pole et j'espère qu'elle se transformera en victoire. J'adore ce circuit, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi il me réussit si bien. Mais attention, je pense que les Ferrari, en partant en super soft, auront un avantage en début de course. C'est un peu la même situation que Paul Ricard en termes de stratégie. Nous avons besoin de bien nous élancer. Lewis voudra aussi remporter la course. Ça va être une course intéressante.
Alors, on peut rebondir là-dessus. Lucas, évidemment, la stratégie pneumatique, on le sait, en fonction du choix apporté par Pirelli, toujours trois gommes, hein, pour être clair, au choix des pilotes. Et puis, évidemment, il y a les ultra soft qui sont censés être les plus performants. Et pourtant, tous n'ont pas fait le même choix dans la fameuse Q2, Lucas, qui détermine la monte pneumatique utilisée au moment du départ.
Oui, c'est ça. Comme d'habitude, on a un casse-tête au niveau de la stratégie. Alors, d'autant plus qu'ici, Pirelli a eu du mal à apporter des informations aux écuries. On discutait avec des représentants de Pirelli hier. Alors, on sait pas trop, puisque les ultra-tendres pourraient faire jusqu'à 45, voire 50 tours. Vous vous rendez compte?
C'est
le composé
ouais.
le plus tendre ici. On parle de 55 tours, 60 tours pour le super tendre. Ouais. Et tout simplement, le tendre, hein, le pneu jaune, lui, permettrait tout simplement de faire toute la course. Donc, si vous rentrez au premier tour, s'il y a un petit problème, je sais pas, si vous cassez votre aileron au premier tour, vous pourriez faire toute la course avec le composé le moins tendre. Donc voilà, ici Pirelli a du mal et les écuries en effet ont fait des choix différents, Mercedes, Red Bull et Ferrari.
Eh oui, le moins tendre, je dirais presque le moins dur.
Le
parce
plus
que,
dur.
Oui, non, parce que c'était un jeu de mots, hein, parce qu'effectivement, Adrien, on déplore une nouvelle fois quand même que ce choix pneumatique n'en soit pas véritablement un. Là aussi, j'enfonce les portes et je dis les choses comme elles sont. C'est pas normal qu'avec des pneumatiques ultra soft, on puisse envisager de faire 45 ou 50 tours.
Ou alors la dénomination est mal choisie,
bah,
effectivement,
oui.
Et on place le curseur au mauvais endroit.
Bien sûr. Il y aura un seul arrêt d'ailleurs, Adrien.
Il y a trois stratégies possibles avec un seul arrêt, mais effectivement au niveau stratégique, je pense pas qu'on puisse faire beaucoup la différence. Alors après, est-ce que un pneumatique ultra soft qui va être capable de durer plus longtemps et sera plus performant que le pneumatique super soft en début de course dans le premier relais est assez pour pouvoir voir des attaques de ceux qui sont partis en ultra soft, c'est pas sûr.
C'est même pas sûr.
Et c'est encore une fois, c'est un circuit là, Spielberg qui va pas nous aider, qui va pas aller dans le sens de la dégradation pneumatique, parce que c'est un des circuits vraiment où on va de plus en plus vite. Ouais. Après les tours, c'était la même chose.
Ouais, ça se charge en gomme.
En DTM,
il est pas très utilisé dans l'année.
Et effectivement, la perte en essence, donc la voiture qui devient de plus en plus légère, devient plus rapide, et la dégradation du pneumatique est moindre en termes de performance. Donc on va de plus en plus vite pendant la course, et ça sera comme ça a priori. Donc voilà, on risque de voir un premier relais très long. Espérons qu'il y ait des dépassements et espérons qu'il y ait peut-être des circonstances de course au début de la course, lors du départ.
Et un scénario, je la fais chaque année à la Steven Spielberg, si tu vois ce que je veux dire. Tu voulais rajouter quelque chose, Lucas?
Mais oui, pour vous dire, même chez Pirelli, en interne, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas amené le pneu hyper soft.
Ben voilà.
C'est incompréhensible.
C'est bien qu'il se pose la question.
Il a été créé pour ça. Mais oui, le problème, c'est que ceux qui se posent la question ne sont pas forcément les décideurs.
Ah, d'accord. Bon. Là, tu nous apportes une info, mais effectivement, qui nous laisse décider, hein. Nous, on va apporter à chaque fois les hyper soft, et puis on va leur demander d'en créer même encore plus tendre, qui dure 10 tours, comme
il
ça.
Il faut un seul train de pneus, un seul type de pneus, et qui soit tendre,
basta.
Et c'est tout. Mais même un seul, détendre, c'est tout.
Et puis tu débrouilles avec ça.
On
l'a fait, hein, d'autres le font. Ou en IndyCar, ils n'ont deux catégories, comme tu sais, comme ça c'est simple, et tout le monde s'amuse comme il veut. Allez, on va vous faire écouter la deuxième réaction. Alors vous allez me dire, c'est Lewis Hamilton déçu? Non, parce que Lucas Vinoy, on vous dit tout, nous a dit, il avait tellement rien à dire, le Hamilton, il faisait tellement la tronche qu'en fait, il a rien dit de véritablement intéressant. On écoutera un petit peu plus tard d'autres pilotes, et notamment un certain Français qui est heureux. On va faire un saut. Première ligne, je vous l'ai dit, Bottas, Hamilton. Deuxième ligne, avec la pénalité de Vettel, c'est Raikkonen et Verstappen. Ça tombe bien, c'est justement le Hollandais volant, qui est très soutenu. Il y a, je crois, environ 20 000 spectateurs. Lucas va nous en parler dans un instant. On écoute Max Verstappen sur sa course.
Je ne sais pas si nous allons devoir regarder devant ou derrière. Les As sont très rapides en ligne droite et même sur l'ensemble du tour. Normalement, nous avons un meilleur rythme de course. Nous verrons donc ce qu'il se passera. Et si jamais une opportunité se présente, nous serons là.
Tu crois qu'il sera là, Lucas? Vraiment, les Red Bull sur le circuit de Red Bull, hein, il faut le rappeler, puisque là, vraiment, en Autriche, on est dans le domaine du manufacturier, j'allais dire, de boissons énergétiques. Et un gros taureau, t'as pas pu le louper, hein, au milieu du circuit.
Alors pour le louper, il faudrait être quand même assez performant. Ouais, mais le problème de Red Bull, c'est qu'à domicile, ils n'y arrivent tout simplement pas. Ils n'ont jamais eu de très très bons résultats. Alors ce week-end, ça ne va pas forcément mieux, hein, pour les deux RB14 qui sont dotés d'un nouvel aileron avant, il faut le signaler, et d'une performance moteur normalement un petit peu meilleure, hein. C'est Renault qui l'a annoncé au début de la semaine, mais ça ne suffit pas, parce que sur un tracé très court, on s'est vite rendu compte que les Red Bull ne pourraient pas lutter avec les Mercedes ni les Ferrari. Donc voilà, la performance n'est pas forcément là. Maintenant, Max Verstappen, on le connaît, il est fougueux, il sera là, il va essayer de tirer le maximum de sa monoplace, mais c'est possible que la Haas de Romain Grosjean vienne titiller un petit peu les Red Bull.
et soutenu par le public, hein. On insiste quand même là-dessus. Donc on peut s'attendre effectivement à ce que Max Verstappen, mais c'est un peu le cas partout en Europe maintenant, hein, parce qu'il a vraiment un club très très actif.
Il a un énorme fan club. Énorme fan club, Max Verstappen. Alors c'est pas aussi impressionnant qu'à Spa, parce qu'à Spa vous le savez, après le Rédillon, on a une marée orange. Mais là on parlait du taureau, il y en a beaucoup. Ils sont peut-être 2000 sous le taureau, et puis il y a une tribune qui est totalement acquise à sa cause, où il y a entre 5 et 6000 personnes. Donc oui, il est soutenu. Ça va lui donner forcément l'envie de réussir encore plus, même s'il en a pas forcément besoin. On sait, il est toujours très très compétitif, et puis il a toujours la hargne, la volonté de faire le maximum.
Mais oui, 2000 sous le taureau, dis donc, c'est dangereux là, hein, du côté des supporters hollandais. Allez, on va écouter Vettel, Sébastien Vettel, qui devait partir sur la deuxième ligne avec son troisième temps, mais Vettel, vous le savez, a commis une petite erreur. On va y revenir dans un instant. On l'écoute au micro de Lucas Vinoy.
Je pense qu'il faut en parler à Valtteri. Il a fait un départ absolument parfait ici même l'année dernière. Je ne pense pas que vous pouvez prévoir un tel départ. Mais même sans cela, je pense que nous avons une chance pour la course, notamment dans le premier tour. Nous verrons ce que nous pourrons faire.
Et voilà, effectivement, Vettel sur le départ. Alors là, ça va être encore plus compliqué, Adrien, parce que partir de la troisième ligne, bon, on sait que les Ferrari sont effectivement performantes, on sait que Vettel est rapide, parfois un peu trop. C'est marrant, d'ailleurs, il a incriminé, enfin, en partie, lors de l'accrochage au Grand Prix de France, il a dit, c'est la monte pneumatique, j'ai été trop rapide au départ, pour ça que j'ai accroché Bottas.
Oui, pour revenir sur l'erreur du départ du Castellet, c'est des choses qui arrivent. Il a été déventé au niveau du freinage, il a bloqué sa roue, il a pas vraiment anticipé le freinage plus tôt de Bottas qui lui avait des pneumatiques différents, mais ça fait partie de son boulot quand même. Il est plusieurs fois champion du monde, c'est Sébastien Vettel. Et des erreurs comme ça, c'est évitable quand on s'appelle Sébastien Vettel. Cet après-midi, en course, il va falloir prendre un très bon départ. C'est une pénalité qui était encore une fois
évitable.
Clairement, elle a pas vraiment.
On va le dire, il traînait sur la trajectoire dans le premier virage, au moment où Sainz arrivait dans un tour très rapide.
Ouais, en plus, c'était en Q2. Sainz est passé en Q3. Ça n'a pas vraiment affecté Carlos Sainz, mais en l'occurrence, il a gêné le pilote espagnol. Et quand il y a des règles, voilà, c'est un peu dur. Mais
ça pouvait être dangereux. Voilà, t'as vu l'image.
Ça pouvait être dangereux. Et malheureusement, c'était aussi au boulot à Ferrari de faire le boulot de prévenir Sébastien Vettel par radio, qui pouvait pas forcément voir Carlos Sainz arriver. Il savait pas si le pilote espagnol était sur un tour de lancer quand il l'a dépassé quelques virages avant, ou s'il était sur un tour de rentrée au stand. Donc Sébastien Vettel ne l'a pas vu, et voilà, ça, il se rend la vie un peu plus difficile. Pour nous, ça va sûrement faire du spectacle.
C'est évident, parce qu'il va effectivement remonter. Allez, avant de marquer une toute petite pause, on va vous faire écouter un autre pilote qui est toujours très très fort en course. Il partira avec seulement le septième temps. Ben oui, lui, il ne profite pas du déclassement de Vettel. Il s'appelle Daniel Ricciardo. Il n'a pas son pareil en course, hein, vous le savez, pour rebondir. Daniel Ricciardo, déjà 2 victoires cette saison, mais au micro de Lucas, il était un peu énervé.
Romain a fait du bon travail, il était rapide, nous n'étions tout simplement pas assez compétitifs, nous n'avions aucune chance d'être dans le top 3 ou même sur la deuxième ligne de la grille de départ. Je ne suis pas content de ma Q3, nous avons eu 3 tentatives et à chaque fois j'ai tout donné pour aspirer Max dans la ligne droite. Je suis vraiment contrarié, je pense que lors d'une seule de mes tentatives on aurait pu me rendre l'appareil. À chaque fois j'ai perdu du temps et cela gratuitement.
Alors Lucas, ça mérite une petite explication, hein, parce qu'effectivement, c'est vrai que l'aspiration, malgré tout, peut jouer son rôle ici, on le sait bien. Et là, Ricardo, effectivement, on a vu qu'il y avait ce petit manège entre les deux monoplaces, les deux Red Bull, et on a compris que les deux pilotes, là, ça se passait pas très très bien entre eux, c'est bien ça.
Bah, c'est surtout qu'en fait l'écurie n'a pas été assez claire avec Daniel Ricciardo. Normalement, il y a toujours un Grand Prix, on a un qui sort devant et l'autre derrière. On change, on alterne. Au Castellet, sur le circuit Paul Ricard, c'était Daniel Ricciardo qui était derrière et qui pouvait donc bénéficier de l'aspiration de son coéquipier. Et ici, c'était l'inverse. Le problème, c'est qu'il y a eu 2 runs à la faveur de Max Verstappen. Lui était derrière et ensuite l'équipe a demandé à Verstappen de passer devant pour aider Ricciardo. Mmh. Le problème, c'est que Verstappen, il a dit non, je ne passerai pas. On connaît le caractère du Batave, bien trempé. Et il a dit non, je ne passerai pas. C'était au Castellet, c'était moi qui étais devant. Maintenant, c'est à lui d'être devant. Donc finalement, Ricciardo, avec le déficit de puissance du moteur Renault, n'a pas pu signer un très bon temps. C'est la raison pour laquelle il était énervé à chaud, mais ensuite il s'est un petit peu calmé et il a finalement admis que c'était à peu près normal cette situation, puisque lui avait bénéficié de la situation inverse au Castellet.
Adrien, en un mot, entre pilotes, ce genre de choses, ça peut arriver, surtout si l'équipe n'est pas claire, c'est ça?
Bah, on se souvient de leur accrochage à Bakou, mais ils sont quand même venus ensemble en avion, tous les deux, en Autriche, donc ils s'entendent quand même relativement bien, Max Verstappen et Daniel Ricciardo. Souvent, c'est un travail d'équipe, mais après, en ce qui concerne les aspirations, comme ça, en qualification, c'est toujours quelque chose de très difficile à gérer, parce qu'il y a des circonstances qu'on ne peut pas toujours calculer. Un autre pilote qui se met entre les deux, etc. Bon, c'est toujours compliqué. Bon. Donc, de planifier une qualification comme ça, c'est pas simple.
Allez, vous êtes bien dans Motors. On vous parle du Grand Prix d'Autriche de Formule 1, 9e épreuve de la saison, que vous vivrez en direct à partir de 15h tout à l'heure sur RMC. Mais vous vivrez aussi la Coupe du Monde de foot. Ne vous inquiétez pas. Vous restez avec nous.
RMC Motors avec Motorsport TV. Jean Lecroix.
Et oui, vous êtes bien sur RMC dans Motors, l'émission consacrée au sport mécanique. Dans un instant, on vous reparle de Formule 1 et du Grand Prix d'Autriche. Mais vous le savez, on est aussi connecté à la Coupe du Monde. C'est le flash de Benji Ramagé maintenant.
Et on débute avec des nouvelles de l'équipe de France qui s'est qualifiée hier soir pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en battant l'Argentine 4-3 grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. L'attaquant parisien a littéralement impressionné son coéquipier Florian Thauvin.
Je l'appelle 37 maintenant, il était à 37 km/h, donc je lui donne un nouveau surnom. Alors honnêtement, sur le banc, nous on était un peu choqués parce que c'est incroyable. Il est parti de notre camp, du milieu de terrain, il a fait une course de 50 mètres pour obtenir un penalty. C'est incroyable. À un moment donné, je me suis demandé s'il était même pas en scooter sur le terrain, tellement il allait vite. Et je pense que la France peut être fière d'avoir un joueur comme lui.
Kylian Mbappé qui n'a pas seulement impressionné ses coéquipiers puisqu'il a reçu de nombreux messages de félicitations d'anciens joueurs sur les réseaux sociaux et parmi eux, le roi Pelé. Au programme des Bleus aujourd'hui, un entraînement à 16h au stade Glebovets d'Istra pour ceux qui n'ont pas débuté face à l'Argentine. Soins et récupération pour les titulaires avant France-Uruguay, match qui aura lieu vendredi à 16h. Suite des huitièmes de finale aujourd'hui avec à 16h Russie-Espagne, à 20h le Danemark défie la Croatie. Deux matchs à vivre en direct sur RMC, radio diffuseur officiel de la Coupe du Monde FIFA 2018.
RMC Motors, le French's Corner.
Et voilà, on vous l'a gardé pour la bonne bouche, ce French's Corner. Et on a plaisir, évidemment, à l'aborder, toujours avec Adrien Tambay, bien sûr, et Lucas Vinois. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a un Français qui a brillé. Et là aussi, j'aime bien sortir cette formule, parce qu'elle est importante, vous le savez. Sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Alors, c'est vrai qu'on peut toujours nous reprocher, parfois, d'avoir la dent dure pour Romain Grosjean. On l'a eu quand il le fallait. Mais on est ravis, aujourd'hui, Adrien, de le féliciter pour cette très belle qualif. Il avait le 6e chrono. Finalement, il partira 5e.
Et oui, il a fait les 60% du job, Romain Grosjean, mais il reste une course aujourd'hui. On espère que ça va enfin débloquer son compteur de points. Rappelons qu'il n'a pas encore marqué de points, Romain Grosjean, cette saison, alors que Kevin Magnussen, lui, est régulièrement dans les points, son coéquipier. Voilà, il faut que ça tourne pour Romain. Il est dans une très très bonne position, 5e sur la grille. Il va même pouvoir aller peut-être se mêler à la bataille devant. Et ça nous fait très plaisir. Espérons encore une fois que ça aille au bout cette fois-ci.
Oui, puis il a un bon total, hein, Magnussen, 27 points. Ouais. 27, petit clin d'œil.
Un beau chiffre.
Très très beau résultat et petit clin d'œil à Patrick Tambay qui avait signé la pole sur ce tracé de Spielberg sur le
ça s'appelait Zellweg à l'époque.
Ça s'appelait Zellweg, ouais. Exactement, c'était le nom. On va écouter tout de suite, si vous le voulez bien, Romain Grosjean, heureux, au micro de Lucas Vinois après cette très belle qualif.
On a eu tout un bon week-end jusque-là, vraiment on a bien géré, on a réussi à sauver deux trains de pneus neufs pour la Q3, ce qui permet de se faire plaisir, d'avoir des bonnes sensations dans la voiture, donc voilà, on a bien travaillé, je suis content avec tout ce qu'on a fait. Ah ouais, c'est sûr qu'on rêve de toujours plus. À un moment, quand j'étais 4e, je me dis, allez, ça peut tenir. Et puis Verstappen améliore et Vettel aussi, mais dans l'ensemble, voilà, ça a été une très belle qualif, je suis content que Kevin soit là aussi, donc demain, voilà, on va essayer d'avoir une belle course et marquer des points et d'être sans encombre du début à la fin.
Et ben voilà, il a tout dit, hein, Romain, dans sa phrase, Lucas, en te répondant. Effectivement, on sent que là, il peut y croire raisonnablement. D'abord parce que globalement, et il l'a souligné aussi, les As, sa moteur Ferrari, sont très performantes sur ce type de tracé.
très performante sur un tour et très performante en rythme de course. C'est d'ailleurs ça qui a beaucoup étonné la concurrence. L'ensemble du paddock était très surpris de voir les As autant à leur avantage ici. C'est tant mieux pour Romain Grosjean, c'est tant mieux pour Kevin Magnussen. Voilà, Romain Grosjean, c'est ce qu'il nous disait hier, il veut vraiment une course claire. Limite, il a dit, s'il est tout seul pendant toute la course et qu'il s'ennuie, c'est pas grave. Ce qu'il veut là, c'est débloquer son compteur et qu'on arrête de l'embêter avec ça, puisqu'il est le seul pilote avec Sergei Sirotkin à ne pas avoir marqué de points cette saison. Donc s'il est tout seul sur la piste, ça devrait aller, mais en effet, on lui souhaite le meilleur, d'autant plus que cette As est vraiment, vraiment très performante ici. Elle fait quasiment jeu égal avec les Red Bulls, ce qui est quand même une performance incroyable.
Et puis deux éléments très favorables, Adrien, c'est qu'il partira donc en cinquième position sur la grille. Je le rappelle, il avait signé le sixième temps, mais la pénalité de trois places au détriment de Vettel le positionne donc du bon côté de la piste, du côté gauche qui est balayé avec la meilleure adhérence possible.
Oui, et je suis bien placé pour le savoir. Je me suis lancé de la deuxième place en DTM. J'avais perdu beaucoup de j'avais perdu beaucoup de temps au départ et j'avais perdu de place. Et effectivement, il y a des circuits comme celui-ci où la trajectoire où la bonne trajectoire est vraiment plus adhérente que l'intérieur de la piste, de la ligne de départ. Et voilà, c'est le cas ici en Autriche. Donc c'est une bonne chose pour Romain.
Et justement, ce que nous disait Lucas il y a un instant, Romain lui a confirmé au micro, puisqu'on va l'écouter justement sur ses souhaits pour le déroulement de cette course. Et c'est rare d'entendre un pilote s'exprimer de cette manière, mais on comprend bien son point de vue.
J'aimerais bien une course sans encombre, à la limite si Ricardo passe parce qu'ils sont plus vite, tant mieux. Et derrière, je fais ma course tout seul, mais on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat d'une course simple, j'ai envie de dire. Et je pense qu'on a une bonne voiture, donc c'est super.
Lucas, c'est de l'auto-suggestion. Il se le répète en disant « Je vais me tenir à l'écart de ce qui peut se produire dans le premier tour ». Et c'est vrai que se retrouver effectivement devant une Red Bull, c'est pas évident non plus.
Oui, c'est pas évident, mais bon, ça, à la limite, si Daniel Ricciardo le rattrape parce que le rythme de course est meilleur, il le laissera passer, il se concentrera en tout cas sur lui, sur sa course, parce que la As, on le sait, depuis le début de la saison, elle fonctionne bien. Alors, il y a eu des malheurs en Australie où ils étaient 4e et 5e, ils auraient pu marquer de gros points, il y a eu ce problème de pistolet, mais depuis, Romain Grosjean, il est plutôt rapide, il est plutôt performant, il a été quasiment tout le temps en situation de marquer des points, et il a commis à chaque fois des erreurs. Donc, il le sait que c'est de sa faute, il l'a reconnu, on l'a croisé dans le paddock, il le sait qu'il a commis des erreurs. Maintenant, il veut passer à autre chose et il faut marquer des points, il faut débloquer enfin ce compteur pour pouvoir se concentrer sur le reste de la saison et puis gagner un peu en confiance, parce que je pense pas qu'Adrien me contredira, mais aussi vous perdez en confiance à force de tout le temps faire des erreurs. Et là, il est en bonne position, on lui souhaite en tout cas le meilleur pour pouvoir enfin lancer une saison 2018 un peu compliquée.
161 millième et deux places, deux positions sur la grille, Adrien, c'est ce qui sépare Romain Grosjean de Kevin Magnussen au niveau des performances. Ça veut dire que les As, globalement, et ça corrobore tout ce que nous disons, sont rapides. Magnussen est là. Magnussen qui a, il faut le rappeler, marqué à 4 reprises depuis le début de la saison sur 8 Grands Prix. C'est quand même impressionnant.
Oui, et à chaque fois des bons points. Ouais, des bons points. C'est pas juste une dixième place par-ci par-là, c'est des bons points. Et il est, il a été critiqué dans le passé, Kevin Magnussen, pour être pilote très dur en piste, mais c'est aussi ça qu'on aime, moi que j'apprécie personnellement chez lui. Il est très adroit et on connaît la performance sur un tour de Romain Grosjean, donc de faire jeu égal avec Romain, c'est une belle performance. Aujourd'hui, enfin hier, il a pris 160 millième, c'est à la fois peu mais c'est beaucoup sur un circuit comme l'Autriche, comme Spielberg, entre coéquipiers. Rappelons que dans les virages rapides, c'est là où on perd le moins de temps sur les pilotes, parce que le différentiel de vitesse en termes de pourcentage représente moins de temps autour en fait. Donc si on est un peu moins rapide que son coéquipier, on perdra moins de temps sur un circuit rapide que sur un circuit lent. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment deux pilotes qui sont tous les deux très performants.
Et qui se poussent l'un l'autre, c'est ça qui est important dans une équipe. Voilà, on vous a bien parlé de Romain Grosjean, bien sûr, avec sa très belle performance, et de l'équipe As. On va parler des autres Français, puisque nous sommes dans le Frenchies Corner. Et justement, juste au-delà de la barrière de la dixième position, parce que faut savoir que la cinquième ligne sera occupée par Carlos Sainz, donc le pilote espagnol, devant Nico Hülkenberg. Un mot peut-être là-dessus, d'ailleurs, Lucas, si tu veux bien. Carlos Sainz qui prend un petit peu le pas régulièrement maintenant sur Hülkenberg, c'est clair.
C'était déjà le cas en fin de saison dernière, mais Hülkenberg connaissait des aventures au niveau technique, hein, avec quelques abandons. Mais oui, petit à petit, Carlos Sainz est performant. À chaque fois qu'il faut marquer des points ou être en bonne position, que la Renault fonctionne bien, il est là. On peut presque dire que la Renault, c'est la quatrième force du championnat, hein, puisque en termes de régularité, hein, c'est souvent les Renault qui arrivent à performer. Elles sont souvent bien sur les circuits et rarement moins bien, comme ça peut être le cas pour Sauber ou même As de temps en temps sur certains tracés. Mais oui, Carlos Sainz qui montre que c'est un bon pilote. On le rappelle, il est prêté hein, par Red Bull. Oui. C'est toujours un pilote Red Bull. Il est prêté donc si jamais Daniel Ricciardo venait à partir,
le timing
peut-être
est
que Carlos Sainz, peut-être que Carlos Sainz pourrait remplacer Daniel Ricciardo, même si la tendance est à ce que Daniel Ricciardo reste chez Red Bull puisqu'il n'a peu d'opportunités qui se présentent à lui pour l'instant.
Ah tiens, bah parlons-en. Allez, c'est le moment. Dans le Frenchies Corner, on va parler tout de suite hein, d'Ocon, de Gasly et de Leclerc, mais parle-nous des bruits, de ce qui bruise dans le paddock d'Autriche. Alors, du côté déjà de Mercedes, hein, c'est l'écurie dominante, Bottas est peut-être en train de se refaire une belle santé là, Lucas.
Alors Bottas devait faire une bonne saison pour être reconduit. Pour l'instant, il donne satisfaction à Mercedes. Donc il serait reconduit sur un contrat d'un an, une seule année. Donc lui voudrait plus, mais pour l'instant Mercedes ne proposerait qu'un an. Lewis Hamilton lui va re-signer, ça devrait être annoncé du côté de Silverstone, on comprend pourquoi.
Évidemment.
Ensuite, du côté de Red Bull, Max Verstappen lui est encore sous contrat. Daniel Ricciardo lui devait peut-être bouger, mais finalement les portes se sont un petit peu fermées devant lui, donc il devrait rester avec Red Bull. En revanche, c'est du côté de Ferrari que ça pourrait changer,
voilà.
Puisque Kimi Raikkonen ne donne plus satisfaction à Ferrari. Hein, il ne parvient pas à marquer des points, ou du moins à prendre des points en fait à Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas quand Sébastien Vettel est un petit peu en difficulté. Et pourtant, c'est ce qu'on demande à un deuxième pilote, puisque même si on n'emploie plus beaucoup cette expression, Kimi Raikkonen reste le deuxième pilote Ferrari, il faut bien se le dire.
Bien sûr.
Donc on aurait Charles Leclerc, bien évidemment, dans les petits papiers de Ferrari. Ferrari, on le sait, a raté Jules et ne veut forcément pas rater Charles.
Alors justement, je rebondis là-dessus. Avant qu'on parle d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly, Adrien, évidemment, c'est ce qu'on souhaite tous. Hein, et c'est vrai que tout le monde lui pose la question à Charles, qui doit également résister à cette pression psychologique. Pour le moment, il le dit, il le répète et il a raison. Il se concentre sur cette saison avec Sauber.
Oui, il se concentre, il fait bien le boulot et il est apparemment, enfin en tout cas, il a l'air complètement hermétique à toutes ces rumeurs et tous ces bruits. C'est le plus important pour lui, c'est de continuer à faire le boulot comme il le fait. Après, je vais mouiller un peu. Je pense que on est très proche hein, d'un accord avec Ferrari du côté de Charles et de son manager Nicolas Todd.
Ouais.
Voilà, espérons que ça soit confirmé les bruits qu'on entend, mais ça serait effectivement fantastique d'enfin avoir Ferrari qui fait confiance à un jeune pilote. Et je pense que Vettel aura du boulot.
Oui, Vettel aura.
Ce qui est assez drôle, c'est que souvent les silences veulent dire plus que des mots. Et lorsqu'on a posé la question à Charles s'il avait discuté avec Ferrari, il nous a naturellement répondu non, avec un long silence et un grand sourire. On lui a reposé la question, il a répondu à nouveau non, avec un grand sourire.
Oui.
Donc, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, bien évidemment, ça a discuté entre Ferrari et Charles Leclerc.
Et on sait qu'il y a des contacts. Et tiens, vous voulez une petite indiscrétion du paddock du Grand Prix de France? Bah, par hasard, je me promenais du côté de chez Mercedes et j'ai vu Nicolas Todt sortir justement du motorhome de chez Mercedes. Ça veut simplement dire que bah, c'est normal, il fait son boulot de manager, il a des contacts avec toutes les équipes. Alors, c'est pas sur la liste, hein, c'est le contraire de ce que nous venons de dire, mais ça permet de faire comprendre également à Ferrari que s'ils veulent garder cette perle dans leur giron, puisqu'on sait que c'est un pilote de la Ferrari Academy, Charles, et que évidemment sa voie est toute tracée, bah, il va falloir maintenant concrétiser. Voilà juste ce qu'on pouvait dire. Alors, on en vient à Esteban Ocon, le pilote français, 11e sur la grille de départ, Adrien. C'est à la fois la meilleure et la plus mauvaise des positions, je dirais. Il est pas dans le top 10, certes, mais il peut choisir sa stratégie et donc c'est pneumatique.
C'est pas forcément le circuit où ça sera le plus intéressant de choisir ses pneumatiques, puisque la différence entre un pneu ultra soft et un pneu super soft est moindre.
Ou le soft, j'allais dire. Pourquoi pas? On a vu Alonso, je crois, tenter de rouler avec le soft.
Ou le soft,
hein.
Mais on se met en danger d'un safety car. Ouais, on sera obligé de s'arrêter et de faire tout le reste de la course avec un train de pneus différent
et
plus tendre. Donc non, a priori, c'est l'ultra soft. soft ou le super soft. Maintenant, pour en revenir à Esteban, c'est une très très bonne performance puisque on sait que son coéquipier est resté bloqué en Q1, il a eu du trafic
bien loin devant
Sergio Pérez.
Hein.
C'est pas la performance de Pérez qu'il a montré hier. Il a eu du trafic, mais voilà, avec cette Force India qui est un peu moins bonne que d'habitude, un développement qui tarde à arriver, peut-être quelques soucis un peu financiers. Esteban a commencé à le dire. Ça va, c'est un peu plus compliqué. Là, on tire un peu la langue chez Force India. Mais en tout cas, lui, de son côté, il fait un top job. Et c'est pareil pour Pierre Gasly.
Et on rappelle que Esteban est 13e au classement général provisoire du championnat après les 8 premiers Grands Prix, à égalité de points. Et il faut le souligner, avec Charles Leclerc, hein, c'est incroyable. Ouais. 11 points tous les deux, c'est dire le niveau de Charles une nouvelle fois. Et on rappelle que la Force India n'était pas performante. Alors, on en vient, Lucas, au cas de Pierre Gasly. Pierre Gasly, qui là aussi a ultra dominé son équipier Brendan Hartley, 12e, là aussi juste sur les talons d'Esteban Ocon. Alors, tu vois ce que je veux dire, mais je vais le dire, faut que les deux Français passent les deux, trois premiers virages, ça te va, Lucas?
Oui, on va essayer. Ça serait une bonne idée. Ça serait pas mal. Après, Pierre Gasly, pour revenir à son cas, il domine son coéquipier, donc tout va bien. De toute façon, il est plus rapide et il le démontre depuis le début de la saison. Mais sur un circuit où vous avez 65% de pleine charge, voilà, il est propulsé par le moteur Honda et celui-ci ne lui permet pas de rivaliser avec les pilotes qui se trouvent devant lui sur la grille de départ. Apparemment, on compte le déficit sur les deux. En dixième du moteur Honda par rapport aux autres moteurs du plateau sur les deux mains. Donc voilà, si c'est 6 ou 7 dixièmes, bah, vous imaginez la différence que ça peut faire et le nombre de places que vous perdez sur un circuit aussi court que le Red Bull Ring.
Bien sûr. Adrien, pour rebondir sur Pierre Gasly et sa Toro Rosso motorisée par Honda, on a lu tout un tas de commentaires également, puisque maintenant ça y est, c'est acté avec Red Bull, sur le fait que cet accord avec l'écurie mère, en quelque sorte la grande sœur de Toro Rosso, allait profiter également à Toro Rosso. Puis tu l'as évoqué tout à l'heure, si jamais Daniel Ricciardo ne restait finalement pas chez Red Bull, eh bien le premier sur la liste, c'est plus que jamais Pierre Gasly.
Oui, c'est sûr que c'est le premier sur la liste, mais j'ai peur que le timing soit un peu mauvais pour Pierre Gasly, parce que effectivement, hein, Daniel Ricciardo, on le voit mal. C'est quoi les solutions pour Daniel aujourd'hui?
Il n'y en a pas, tout simplement.
Peut-être McLaren.
On parle plutôt de Raikkonen chez McLaren. En cas de départ de Fernando Alonso, oui, se précise de plus en plus.
On parle de Raikkonen chez McLaren parce que Ricciardo va rester chez Red Bull. La seule possibilité. Il y a encore quelques jours pour Daniel Ricciardo et partir d'une Red Bull pour aller sur une McLaren Renault qui fonctionne limite pire que la McLaren Honda de l'année dernière.
Qui fonctionne pas tout simplement.
C'est pas une option.
Bon. Merci beaucoup Lucas, on te retrouve évidemment tout à l'heure à partir de 15h en direct sur RMC pour vivre ce Grand Prix d'Autriche de Formule 1, le 9e de la saison. Je te garde avec moi Adrien, puisque dans un instant nous allons retrouver Benoît Boutron pour effectivement parler de plein de choses et notamment parler de Grand Prix moto et parler de la course vers les nuages. Vous allez voir ce que c'est, vous restez avec nous.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC Motors avec Motorsport TV. Jean Lecroix.
Et nous sommes toujours dans Motors, dans la dernière ligne droite de cette belle émission qui nous voit parler de Formule 1, bien évidemment, mais pas seulement. Et maintenant, c'est l'heure de Radio Paddock.
RMC Motors.
World Champion! Oh my God! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Et pas encore champion du monde, Lewis Hamilton. Hein, pour le moment, faudra attendre un petit peu. Je vous la fais à chaque fois, mais c'est bien lui qu'on entend. Et le Radio Paddock, c'est avec Benoît Boutron. Bonjour Benoît.
Salut Jean-Luc, salut Adrien, salut à tous.
Salut Benoît.
Alors on commence par une super belle nouvelle pour un pilote français de moto.
Exactement, une confirmation. Fabio Quartararo, deuxième du Grand Prix Moto 2 de Assen aux Pays-Bas.
Après sa victoire.
Hein. 15 jours après sa victoire en Catalogne. Magnifique performance pour lui. Il est parti 10e sur la grille. Hein. Il avait terminé 7e des qualifications. Il avait pris 3 places de pénalité. Il a fait une super course, il termine deuxième derrière Bagnaia qui confirme sa place de leader au classement général. Mais quelle perf de Fabio Quartararo, enfin Quartararo au niveau auquel on l'attendait. Voilà.
Écoute, c'est un vrai plaisir parce que on le connaît bien, ce jeune garçon, j'allais dire, hein, qui
très
avait
jeune,
brillé,
hein. Bah oui.
Très très jeune, qui avait brillé dans le championnat espagnol et puis qui avait bien débuté en championnat du monde. Et après, on va dire que effectivement, est-ce qu'il s'était un peu brûlé les ailes, il fallait remettre de l'ordre dans tout ça. Et là, on le disait, vu sa taille, parce qu'il est assez grand, il était mieux en Moto 2 qu'il ne pouvait l'être en Moto 3. Et puis là, on a l'impression qu'il a mis de l'ordre dans ses idées aussi.
Exactement.
En tout cas, c'est une course intelligente qu'il a fait. Hein.
Et en tout cas, c'est une très belle perf, effectivement, pour Quartararo. Le MotoGP, ça va partir à 14h, ouais. Donc ce Grand Prix d'Assen.
Juste après Motors.
Avec des qualifications incroyables. Je sais que tu n'en as pas raté une miette, Jean-Luc.
Écoute, alors là, ça a été de la folie. Si je dis ça à Adrien, quand tu t'appelles Johan Zarco, tu signes la pole. Tu signes la pole alors que le temps officiellement est parti. Donc c'est le dernier tour. Tu te dis bon, au pire, je sais qu'il y en a derrière moi, mais
je suis première ligne quoi.
Je suis première ligne, c'est-à-dire sur les trois premiers.
Il finit combien ?
Huitième. Alors vas-y, tu nous racontes parce que c'est ahurissant ce qui s'est passé derrière. Il y avait un petit train derrière.
Exactement.
Et tout le monde suçait la roue. On peut le dire de Johan Zarco.
Le temps imparti est terminé. Donc Zarco qui fait le scratch. Effectivement, il se dit ça va bien se passer. Sauf qu'il y avait sept pilotes derrière et les sept à chaque fois ont fait le scratch à leur tour. Et à la fin, c'est Marquez qui décroche le meilleur temps.
Ouais.
Ça a été hallucinant effectivement cette qualification. Rappelons que le week-end a été un peu compliqué pour Zarco puisque il a dû passer par la Q1, il n'était pas dans les 10 meilleurs temps des essais.
C'est rare, hein, ça faisait longtemps. On rappelle qu'il a signé des pôles.
C'est quoi l'écart qui le sépare de la pole position, Johan Zarco?
C'est deux dixièmes, je crois.
D'accord, oui, 281 millièmes.
Ouais, c'est ça.
Et tiens-toi bien, et ça c'est tout de la moto. Ils sont quatre. En 80 millième, tu t'en comptes 4, ça c'est... Mais on l'a dit, hein, il y a eu 7 rafales derrière, alors tu vas nous donner la grille, bien sûr,
oui,
Benoît, mais c'est ahurissant ce qui s'est passé, parce que... Et on retrouve deux Honda devant, par parenthèse.
Exactement, Marc Marquez, qui est en pôle, et Cal Crutchlow, ça c'est une petite surprise, il partira deuxième sur la grille, Valentino Rossi est troisième, c'est donc la première ligne. La deuxième ligne avec l'Italien Andrea Dovizioso, Alex Rins, l'Espagnol et Maverick Viñales. Et puis donc cette troisième ligne avec Alex Espargaro, Johan Zarco et Andrea Iannone. Déception pour Jorge Lorenzo.
Il alors j'avais demandé, mais il est où Lorenzo?
Il est dixième. C'est assez loin sur Ducati. D'ailleurs une quatrième ligne avec trois Ducati, Lorenzo, Petrucci et Bautista.
Alors si on analyse un tout petit peu, attention à Rossi parce que il n'a pas gagné depuis longtemps. Je crois même que c'était là sa dernière victoire.
Exactement.
Yamaha n'a pas gagné non plus parce que Maverick Viñales n'y est pas.
Bah,
est-ce que ça peut être la revanche de
tout
Yamaha?
Simple. Et ça paraît hallucinant, Adrien, Jean-Luc. Yamaha n'a pas gagné depuis un an, depuis Assen l'an dernier.
C'est incroyable.
Yamaha concurrent évidemment pour le titre de champion. Souvenez-vous le début de saison qu'avait réalisé Maverick Viñales. Ça fait un an que Yamaha n'a pas gagné un Grand Prix moto.
On a du mal à y croire, hein, mais il faut dire que Marquez est tellement un ogre, quand il ne commet pas d'erreur, on va voir là ce que ça donne. Et puis, on a vu des Ducati très performantes.
Exactement.
Avec Dovi, qui a été en jeu pour le titre de champion du monde. Et puis Lorenzo, qui a...
C'est exactement ça. Donc ça fait un an sans victoire pour Yamaha. La pression commence à être forte. Et vous avez vu cette info qui est tombée cette semaine, ou qui va plutôt tomber dans les jours à venir. Vous avez suivi le dossier d'Dani Pedrosa. Pilote officiel Yamaha l'année prochaine, puisqu'il ne sera plus
pilote officiel Honda.
Honda,
faisait 12 ans qu'il était chez Honda.
Exactement.
Ouais.
Et du coup, on parle d'une écurie satellite chez Yamaha, justement. Deux nouvelles motos Yamaha pourraient intégrer la grille, et apparemment, c'est en cours de négociation. Ça devrait se décider dans les jours qui viennent.
Alors ça, c'est vrai que c'est la grosse surprise. Après toute sa carrière qu'il a passée, j'allais dire tranquillement, Dani Pedrosa, le tout petit pilote espagnol, hein, dont on disait d'ailleurs qu'il aurait du mal à tirer le meilleur des grosses machines, parce que tellement il est menu, tellement il est fin, tellement il est petit. Adrien, juste un mot peut-être sur les écuries satellites, parce que moi j'aime bien ça à moto, c'est-à-dire savoir qu'effectivement, on en a beaucoup parlé pour Suzuki aussi, qui n'a qu'une équipe officielle, qui devait peut-être créer une écurie satellite et qui ne le fera pas. Est-ce que c'est pas la solution à F1, sincèrement, d'avoir aussi des équipes qui sont très bien équipées de matériel à peine inférieur, les coûts sont moindres et qui pourraient bénéficier justement de jeunes pilotes. On vient de parler
le à peine est important. Donc c'est vrai que si le matériel est effectivement à peine inférieur, c'est une bonne idée. Maintenant, s'il y a trop de différence entre les équipes d'usine et les équipes satellites, ça changerait pas grand-chose à la Formule 1, mais c'est effectivement une bonne idée.
Mais on voit ce que Johan Zarco avec l'équipe Tech 3 satellite peut faire de sa Yamaha.
Ouais. C'est mieux que les motos officielles.
Et on voit ce que Petrucci, puisque c'est son surnom, Petrux, hein, il est marqué à l'arrière de sa combinaison. On voit ce qu'il fait de la Ducati aussi. Allez, on rajoute deux roues, j'aime bien l'expression, et puis on monte vers les nuages, ça te va aussi.
Ça va te plaire en plus, Adrien, toi tu adores le rallye.
Ah,
Pikes Peak, évidemment, avec un nouveau record. pour un pilote français, encore une fois. Romain Dumas, il a été extraordinaire. On vous rappelle le Pax Peak. C'est une course de côte. Là, c'était au Colorado. On est passé de 2000 à 4000 mètres d'altitude. Un peu moins de 20 km à parcourir. 156 virages.
C'est incroyable.
En moins de 8 minutes. Avec une voiture électrique. En plus, Volkswagen, Romain Dumas a pulvérisé le record. Il est passé sous les 8 minutes. Il a battu Sébastien Loeb. Quel exploit de Romain Dumas.
Écoute, c'est incroyable parce qu'effectivement, quatrième victoire en 6 départs. Alors, tu connais bien sûr cette épreuve, comme moi, Adrien, une réputation incroyable, d'une dangerosité ahurissante, hein, parce qu'effectivement, on bat, je dirais, à 2800 mètres, ce sont les arbres, après il y a les cailloux, puis après il y a le vide. Donc là, c'est plus un gros cœur, c'est plus solidement équipé, faut trouver une autre expression.
Ah, mais au-delà de l'épreuve, c'est Romain Dumas qui est un pilote incroyable, et quand on parle de passion, je crois que plus passionné que lui,
avec
y a
son
pas,
équipe RD, il faut rendre hommage.
Que ça soit de circuit, les 24 heures du Mans, il était aux portes de la F1, Romain Dumas, il y a quelques années, il a gagné les 24 heures du Mans, il est aujourd'hui en GT toujours pilote Porsche officiel. J'ai la chance de me battre contre lui cette année, et c'est un pilote passionné, toujours très agréable.
C'est un type adorable.
C'est top.
Et autant être clair, je voulais l'avoir dans l'émission, mais il est où? À Watkins Glen, aux États-Unis, où il roule également. Il continue à rouler pour Porsche. Hein, il a roulé aux 24 heures du Mans, etc. Donc c'est un type absolument génial.
Et pour clôturer ce sujet sur le Pikes Peak, réponse de Sébastien Loeb sur Twitter aujourd'hui. Bravo pour ce chrono, Romain Dumas, et félicitations à toute ton équipe. La revanche est déjà programmée le 23 septembre prochain, donc à suivre pour Sébastien Loeb.
Et en France, je crois.
Exactement.
Bon, ça va être sympa. Merci beaucoup, Benoît, pour avoir été avec nous dans cette émission. C'est déjà la fin de Motors, mais pas la fin des sports mécaniques. Aujourd'hui, on se retrouve tout à l'heure aux alentours de 13h.